Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure de conversation. Ce soir, avec Ouria Aichi.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Ouria Aichi.
On chante beaucoup en ce moment dans les rues, ça chante à Toulouse, à Nantes, à Paris, à Marseille, mais ça chante aussi à Beyrouth, à Hong Kong, à Tbilissi ou en Irak. On reprend dans certaines rues indiennes un chant féministe porté d'abord dans les rues chiliennes. La musique circule, s'augmente, se transmet, se transforme et se nourrit des échos. Ça chante à Alger, bien sûr, et en Algérie depuis près de 50 semaines, les mardis, les vendredis et au milieu de la colère, une ferveur qui naît de cette chose simple, unir des voix, les harmoniser, les porter haut ou les porter tout bas. Ça chantait mercredi sur le parvis de la Maison de la Radio, le cœur de Radio France, seul chœur professionnel permanent à vocation symphonique du pays, menacé d'une claire baisse d'effectifs, interprétait du Verdi sous la pluie. Et vous aussi, vous chantez Ouria Aichi depuis bien des années. Vous serez dimanche prochain à 17h, le 19 janvier, en concert dans l'auditorium du musée du Quai Branly à Paris. On y entendra résonner des chants mystiques d'Algérie dont les enregistrements existent depuis 2017 sur un disque paru au label Accords Croisés. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. On est maintenant à quelques jours, quelques heures de ce concert-là. Et il se trouve pas très très loin, dans ce studio de la Maison de la Radio, de l'endroit où vous allez chanter dimanche. Comment est-ce que vous vous préparez à ce genre de moment, Ouria Aichi?
Je crois que la première chose que je fais, c'est de commencer à m'isoler, enfin à me couper du monde, de la vie de tous les jours. En tout cas, au moins par moment dans la journée, et de penser très très fort à la scène. Et puis, ensuite, penser au texte que je vais interpréter, parce que ce ne sont pas n'importe lesquels, ce sont des chants mystiques, sacrés, qui sont chantés dans une tradition populaire très, très, très installée, séculaire, dans le peuple, chez les gens, ce sont des chants mystiques des gens. Et ça, cette notion de chant des gens, j'y tiens énormément parce que je me sens en faire partie. Je suis simplement ça. Je fais partie de ces gens d'Algérie qui chantent.
Quand vous dites que vous vous coupez du monde, en tout cas une partie de la journée, notamment pour penser à ces textes, vous le faites toujours en vue d'un concert, c'est-à-dire quelques jours, ou peut-être une semaine ou deux semaines, où ça fait partie de votre vie, Ouria Aichi, cette espèce de retraite?
Non, je pense que c'est vraiment à l'approche de concert. Le reste du temps, quand je n'ai pas d'échéance de scène, non, j'ai une vie parisienne, tout à fait classique. Non, ce retrait un peu de la vie de tous les jours, c'est vraiment au fur et à mesure qu'approche la date du concert.
Et c'est quoi pour vous? C'est une sorte de silence, d'écart, de concentration?
Alors, je dis souvent que, enfin, je n'ai plus tellement cette notion avec autant de force maintenant, mais quand j'ai commencé à chanter, j'avais l'impression que quand j'étais sur scène, il y allait de ma vie. C'est comme si je jouais quelque chose de ma vie. Et en fait, c'est pas. Je dois dire quelque chose quand je dis cela, parce que ces chants j'ai grandi avec. C'était une pratique quotidienne des femmes dans cette cour dans laquelle je suis née et j'ai grandi. Et le chant était l'expression royale de ces femmes qui vivaient dans un espace clos et qui trouvaient de manière géniale des moyens d'expression, dont le chant. Et c'était vraiment là, en tout cas de ma vie de petite fille avec ces femmes dans cet espace clos, le moment où l'on chantait, parce que quand les femmes chantaient, j'étais très souvent là avec elles, c'était des moments très particuliers où, à mes yeux et à mon cœur et à mon émotion, il se passait quelque chose de très profond. Alors, est-ce que c'est lié à mon histoire personnelle, parce que je descends d'une espèce de chaîne de femmes chantantes, puisque ma grand-mère, mes tantes, ma mère, moi-même, chantons, et elles étaient plus ou moins, en tout cas ma grand-mère, c'est sûr, c'est comme ça que je la vois, je la sens, parce que je l'ai accompagnée aussi dans des moments où on l'invitait à venir chanter dans des circonstances de fête ou de tristesse d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai l'impression de faire partie de cette chaîne féminine de chanteuses.
Vous évoquez finalement des scènes assez quotidiennes, des scènes à la fois, vous dites, des chants des gens, des chants populaires, mais aussi des chants de tous les jours. Et en même temps, il s'agit de chants mystiques, de chants sacrés. Est-ce que ça veut dire que, en fait, il y a ces deux choses qui sont très mêlées? C'est une grande quotidienneté et un rapport. Alors, ça veut dire quoi? Quotidien au sacré et au mysticisme?
Ça, je pense que je peux l'affirmer tout à fait simplement. Que dans cette cour dans laquelle je suis née, j'ai grandi, qui n'existe plus malheureusement, parce que je suis allée voir l'endroit où je suis née il y a quelque temps, lors d'un de mes passages dans ma ville natale, qui est Batna, et cette cour n'existe plus. Et alors pour moi, si vous voulez, c'est une espèce de lieu, comment dire, un lieu magique, où il se passait énormément de choses. À savoir la vie de ces femmes, toute la journée, depuis le réveil jusqu'à l'arrivée des hommes, parce que quand les hommes rentraient à la maison, les choses changeaient. Et donc toute la journée, il y avait une vie féminine intense. Alors peut-être que c'est moi qui vois ça comme ça, de mes yeux de petite fille, mais il y avait une vie intense à la fois dans le domaine du profane, mais aussi dans la présence de la spiritualité, parce que le mystique et le sacré, il n'est pas là quotidiennement, etc. Mais la spiritualité, oui, la spiritualité de l'islam. Et était là, puisque quand on s'assoit, on remercie Dieu, quand on mange, on remercie Dieu, quand on se lève, vous voyez, il y a une pratique de cette spiritualité, de la présence de la foi et de la spiritualité des gens, en fait de ces femmes, au quotidien. Mais les moments du sacré et du mystique pouvaient venir à des moments particuliers de la vie des gens. Par exemple...
Mais ritualisé, particulier, voilà, au sens
exactement,
de ritualisé.
Exactement.
Tout par exemple.
Alors, par exemple, je pense immédiatement. Je devrais penser à la vie avant de penser à la mort. Mais ce qui me vient, ça, c'est ça. Par exemple, on chante pour accompagner le mort. Et c'est des chants mystiques, des chants sacrés. On accompagne, par exemple, le moment de la circoncision par des chants sacrés, mystiques, mais aussi profanes. Mais en tout cas, la circoncision est un moment d'expression de sa foi. Et donc, le chant est très présent. Il y a également des moussems, c'est-à-dire des moments où des confréries, parce que dans mon album, il y a plusieurs chants de confréries mystiques qu'on appelle l'Aïsawa. Et ces confréries se retrouvent à des moments particuliers de l'année pour chanter ensemble et exprimer par la joie, par la musique, par la percussion, leur spiritualité.
Je voudrais qu'on entende une femme qui justement parle de ses expériences à la fois psychiques, profanes, mystiques, sacrées et de la musique. C'est Nadia Atmansour.
Quand j'étais jeune, j'avais une façon unilatérale d'appréhender la divinité, c'est-à-dire donc le dieu des trois monothéismes, le dieu paternaliste, perfectionniste, volontariste. Et puis, finalement, plus tard, un peu plus tard, je me suis rendu compte que j'avais complètement occulté la dimension féminine de la divinité. Et ça a été un réveil douloureux, d'ailleurs. Et à partir de là, le soufisme qui intègre donc cette dimension du féminin, qui finalement est très, très importante quand on l'expérimente, enfin, quand on le vit. Et donc finalement, oui, le soufisme intègre le féminin, la divinité féminine, au même titre que le dieu masculin. Et donc, de chanter le soufisme, on se sent tout à fait à notre place.
Expérience profonde, toute transformation profonde est empreinte de ce lumineux, de ce sacré.
Fuck.
tennis. Oria Aishi, on entend ici un extrait de ce disque dont je parlais en introduction, Chant mystique d'Algérie, paru sur le label Accord Croisé, et juste avant, deux moments de la voix de Nadia Atmansour dans une archive de 2003, Les vivants et les dieux, diffusée sur France Culture. Nadia Atmansour, qui est aussi psychanalyste, qui chante, qui parle de son rapport à la musique et au soufisme, mais dans ce deuxième morceau d'archive, à toute expérience profonde de transformation, telle que peut aussi le produire la psychanalyse. Je voudrais juste revenir sur nos corps. J'ai pas regardé Jeanne à ma droite, mais en tout cas, je nous ai regardé et senti toutes les deux, et en fait, on s'est verticalisé au moment où le chant a commencé. Pourquoi ? On s'est vraiment redressé, quoi.
Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes redressé, mais moi, je peux donner une explication, celle dont je suis consciente, il y en a peut-être d'autres, mais celle dont je suis tout à fait consciente, c'est que maintenant c'est devenu un réflexe de faire la colonne d'air, et c'est devenu une attitude de réflexe.
Comme si vous vous apprêtiez à chanter, en voilà, fait. Peut-être exactement. Que je m'apprêtais aussi à chanter, je sais pas, mais... Ah oui, d'accord, c'est qu'on laisse passer l'air, quoi.
Voilà,
vous
faut entendez, laisser passer l'air, faut gonfler la poitrine et laisser passer l'air.
Dans cette archive de 2003, Nadia Atmansour dit que sa découverte finalement de la place faite et de l'existence de la dimension féminine de la divinité dans ce qu'elle découvre à un moment donné dans le soufisme est une découverte et un réveil douloureux, mais essentiel. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de similaire pour vous ? Comment ça s'est passé pour vous, Oria Aishi ?
Quand j'ai travaillé la première fois sur ce répertoire sacré, parce que j'avais déjà fait un travail auparavant, et c'était en pleine période terrible qu'avait connue l'Algérie dans cette décennie terrible qu'avait connue l'Algérie. Et je ne savais pas quoi faire pour trouver un peu de calme et un peu de souffle, enfin quelque chose qui m'aiderait à vivre et à supporter ce qui se passait en Algérie. Et spontanément, je me suis retournée vers le chant mystique. Et c'est là que j'ai trouvé, avec beaucoup, énormément de douleur, quand je travaillais, que je collectais ces chants, que je les transcrivais, que je les apprenais, je passais mon temps à pleurer. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'en garde un souvenir très précis, c'est que ça a été un moment extrêmement douloureux et que pendant tout le temps que j'ai travaillé sur ce répertoire, ce travail a duré plus d'un an, j'ai beaucoup pleuré. Alors, l'explication que j'en avais donnée, c'était que chaque fois que je travaillais à ce répertoire, à cet album, je pensais à ce qui se passait en Algérie, à la tuerie et l'horreur que vivaient mon pays et mon peuple. Et j'ai quand même aussi pensé à des moments de joie et de profonde satisfaction. C'était des images qui me revenaient de mon enfance, mais ma toute petite enfance, hein, j'étais vraiment toute petite. Et le jour de l'Aïd, je regardais avec des yeux éblouis mon père.
C'est une fête très importante.
Voilà, c'est une fête fondamentale dans la liturgie musulmane. Et je regardais mon père, totalement ébloui, se préparer à aller à la prière du matin de l'Aïd. Je le trouvais magnifique, parce qu'il sortait son costume traditionnel, de blanc immaculé, et je le regardais s'habiller, se mettre ce turban, cette gandoura, ce burnous de poils de chameau, ces chaussures qu'il cirait, qu'il gardait bien précieusement pour les grandes cérémonies, et je le voyais partir à la mosquée ou au cimetière, parce qu'à un moment donné, les prières de l'Aïd se faisaient au cimetière. Et j'attendais patiemment qu'il revienne de cette prière pour lui souhaiter une bonne fête. Et c'était un moment exceptionnel dans ma vie de petite fille. Et alors je pensais à ces deux choses à la fois, était présent dans ma vie à ce moment-là, la douleur et la joie.
Comme souvent dans la musique, on peut dire, d'une certaine manière.
Exactement, je suis bien d'accord avec vous.
On entendait aussi la voix de Nadia Atmansour parce que il se trouve que vous êtes venue étudier à Paris, vous êtes venue étudier la psychologie et que on sent bien même dans la manière dont vous cherchez l'origine des pleurs au travail de ce chant soufi qu'il y a évidemment un parcours musical, presque une tradition, une expérience musicale, mais aussi une expérience de ce que c'est que la psyché humaine, de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes composés. Vous parliez tout à l'heure de lignées de femmes qui chantent. Vous diriez que ça vous compose autant que votre pratique musicale, cette exploration de la psyché humaine?
Alors, ça n'est pas conscient, je ne le fais pas consciemment, je ne vais pas chercher. Mais ça m'accompagne dans mon travail, parce que je suis née dans une société traditionnelle, modeste, où la culture populaire était très forte et très présente. Dans cette cour dont je vous parlais tout à l'heure, se pratiquait le chant, bien sûr, parce que c'est cette chose-là à laquelle je me suis profondément attachée, mais il y avait beaucoup d'autres pratiques culturelles et sociales. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle la touisa, qui est une pratique de solidarité féminine. Par exemple, je vous donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Les familles roulaient le couscous une fois par an pour l'hiver. Donc, elles le roulaient, elles le séchaient pendant l'été et elles le mettaient en réserve pour la saison d'hiver. Et toutes les femmes de cette cour venaient, il y en avait une dizaine, venaient aider la maîtresse de maison à rouler le couscous parce que c'est un travail incroyablement long et difficile de faire de la semoule ces petites graines qu'on utilise pour faire le couscous. Et alors, elle passait une journée ou deux journées de travail partagé et solidaire dans cette pratique de préparer le couscous pour la saison froide. Donc je vous racontais comment se passait cette touisa, donc ce couscous collectif. Mais il y a aussi, par exemple, dans mes souvenirs d'enfant, à la belle saison dans la cour, on montait le métier à tisser, qui était au fond de la cour. Il était là. N'importe qui pouvait venir donner deux coups de peigne. Et le soir, on le couvrait. Il ne pleut pas beaucoup chez nous. Et donc, on n'avait pas peur qu'il prenne la pluie. Et le soir, on le couvrait. Le matin, on le découvrait. Et celle qui avait un peu de temps venait passer quelques coups de peigne. Voilà deux exemples de vie féminine, collective et solidaire qui m'ont construite. Et je pense que quand je chante, parce que quelquefois sur scène, je suis émue presque aux larmes, parce que me viennent des images de cette cour qui, quand j'avais commencé à chanter, me paraissait fabuleuse et magique, parce que c'est là que j'ai puisé ma formation humaine essentiellement. Après, il y a eu l'école, etc. Le début de ma formation humaine s'est passé là.
Je ne sais pas ce qu'il reste de ce métier à tisser solidaire ou de cette pratique de roulage de la semoule annuelle, Ouria Aishi, mais en tout cas, vous avez fait, vous, avec la collecte, vous et d'autres, la collecte de ces chants de maison qui donc ont aussi un rapport à l'extérieur qui est un peu singulier, un travail de mémoire. Comment ça s'est passé, ce moment de collecte-là?
Alors, quand j'ai commencé à chanter de manière professionnelle, parce que j'ai toujours chanté, depuis ma tendre enfance, j'accompagnais ma grand-mère en lui tenant le bout de son voile pour aller avec elle dans les fêtes, les mariages, et je chantais, je dansais. Mais il y a eu un moment où il y a eu un passage du souvenir de cette cour magique à mes yeux, à la scène, ce qui n'est absolument pas la même chose. Donc il a fallu que j'apprenne à faire de la scène, voilà. Et forte de ma formation, ça j'avoue que mes études de sociologie m'ont vraiment beaucoup aidé, forte de cette formation sur comment on fait un collectage, une collecte, comment on parle avec les gens pour qu'ils donnent ce qu'ils ont à donner, et comment moi je dois recevoir ce qu'ils me donnent pour qu'il y ait un échange. J'allais tout simplement, je retournais dans mon terroir. J'en ai dans ma terre, où je suis née et grande. Ma terre, pas au sens foncier, hein, ma terre au sens enracinement. Et je retrouvais les femmes, que j'avais, pour certaines qui étaient encore vivantes, que j'avais vues dans des mariages ou des circoncisions, etc. Et puis d'autres qui ont été formées, des nouvelles générations qui ont été formées par les anciennes. Et je ne venais pas là pour collecter, j'étais là pour être avec elle. Et souvent, on me recevait comme l'enfant qui est parti ailleurs et qui rentre chez elle. Alors du coup, quand j'arrive, quand je débarque de Paris, les gens viennent me rendre visite. Donc je suis installée dans ma famille, et puis les gens viennent, ils demandent de mes nouvelles, je leur en donne, ils me donnent des leurs, et puis une espèce comme ça d'échange très spontané. Et puis comme cette histoire de chant collectif, etc., on se met à chanter. Je chante avec elle, et puis à un moment donné j'appuie sur l'appareil qui enregistre. Et voilà, et je rentre avec des choses magnifiques que je travaille à Paris.
Et que vous transmettez à votre tour. On va écouter Martin Saint-Pierre nous parler de son tambour.
Le tambour, c'est un instrument qui fait appel au battement du cœur. J'avais travaillé dans une clinique de cardiologie pour établir un parallèle entre les différentes pulsations cardiaques et les tambours dans le monde entier, dans les différents folklores. Quand l'enfant est confronté à un tambour, c'est un contact physique très spontané. Ensuite, il y a les premiers tâtonnements, les premiers graffitis sonores, jusqu'à à l'évolution d'un langage plus cohérent, plus rythmique. Mais c'est tout à fait spontané. C'est ça qui est intéressant de travailler avec les instruments de percussion. Il y a les percussions corporelles. Vous savez que la relation corps-tambour, ça vient du fond de l'histoire. Les Incas construisaient des tambours avec les corps des adversaires pour effrayer l'ennemi. Il y a toujours un rapport très, très, très fort, très spécifique entre les corps humains et les tambours. C'est un instrument qui ressent, qui fait appel à la fête, à la guerre, aux énergies de la nature, etc. Moi, j'essaie de nouer la vie quand je joue avec ce tambour-là. Je mélange plusieurs techniques, soit la technique de la derbouka arabe, ou les sarbi iraniens, ou les bongos latino-américains, ou les tantans africains. Il y a des enchaînements, des rythmes qui se mélangent. Je fais toujours un appel à la mémoire, à une mémoire qui est le résultat de rencontres, de voyages. Et c'est chaque fois un long voyage pour moi. Actuellement, je commence un long voyage, que c'est un voyage au bout de moi-même, pour trouver toutes ces sonorités qui sont enfouies dans mon intérieur, dans mon corps.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Ouria Ishi. Thank you.
C'est un enregistrement qui date de 1982 sur le célèbre label Okora, un disque qui s'appelle L'incroyable et longue histoire d'un tambour. On entend Martin Saint-Pierre jouer après l'avoir entendu parler cette fois-ci dans une archive de 1989, Les Nus Magnétiques sur France Culture. Ouria Aichi, Martin Saint-Pierre parle d'un voyage au bout de lui-même. Donc c'est un grand percussionniste argentin, d'un rapport comme ça entre la percussion et le battement de cœur. Ça pourrait être une banalité que de redire cela, mais c'est tellement vrai en fait. Que ça nous indique peut-être la manière dont il existe dans la musique que vous faites, dans la musique que vous transmettez. Il y a plusieurs images où on vous voit tambour à la main, Ouria Aichi.
Oui, la percussion, le bendir, est un instrument très important dans la musique nord-africaine du Maghreb. Et dans les chants mystiques, il y a des moments où la percussion prend une place prépondérante parce qu'elle aide le frère ou la sœur de la communauté, de la confrérie, à se rapprocher d'Allah, de Dieu, par la danse. Et chez les Issawa, donc dans cette confrérie des Issawa dont j'interprète certains morceaux, il y a justement des chants où on commence d'abord par les tapements de mains, et ensuite la percussion rentre, et elle prend de plus en plus d'importance, jusqu'au moment où la voix, le corps et la percussion ne font qu'un. Et ce dont je vous parle à l'instant, ce sont des choses que je fais dans mes concerts. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je suis tellement prise par le propos, parce que je dis moi-même ce dont je parle, par le rythme et par les coups de la percussion, pas seulement de la mienne, mais j'ai aussi des musiciens qui sont d'excellents joueurs de percussion de confrérie, parce que eux-mêmes jouent pour les confréries. Si je poussais un peu, j'irais jusqu'à perdre connaissance, c'est-à-dire dans la transe, jusqu'à en perdre connaissance, parce que c'est possible.
Et vous faites quoi?
Je me retiens parce que je suis sur une scène. Et ce n'est pas possible de faire ça sur une scène. Dans une maison, dans un mariage, dans une fête ou dans une pratique rituelle, éventuellement, je pourrais me laisser aller jusqu'à tomber, jusqu'à en perdre connaissance.
Sans crainte.
Il y a rien à craindre. Je suis avec les autres, je suis avec les gens. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, les gens sont là. On nous tient quand on voit que quelqu'un est en train d'aller dans la transe, jusqu'à en perdre connaissance. On le soutient. Il y a deux personnes, il y a deux femmes de chaque côté qui sont là. Pour nous protéger, pour ne pas qu'il nous arrive de choses, enfin qu'on tombe et qu'on se fasse mal, jusqu'à en perte de connaissance.
Martin Saint-Pierre parlait du rapprochement avec le battement cardiaque. Il évoque aussi sa découverte à Dakar du sabar, et il arrive dans un village et un sabar a été fabriqué pour lui, le tambour a été fabriqué uniquement pour lui, et on lui parle de l'animal dont on a pris la peau. On lui dit qu'à chaque fois qu'il jouera sur ce tambour, l'animal renaîtra et chantera dans le tambour, et qu'il fera lien aussi avec la nature. C'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, ça, la question de la sonorité de la nature, la manière dont ça appelle aussi cela. C'est présent dans la musique que vous jouez, Ouria Aichi?
Je n'en ai pas conscience. Non, je ne le crois pas. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas une adepte de confrérie, hein, je ne sais pas tout. Hein, je chante leurs chants parce qu'ils me touchent et je veux les interpréter, mais je ne suis pas une adepte, donc je ne sais pas ce qui se passe quand on l'est, comment on en parle, etc. Quelle est la pratique.
Est-ce qu'ils en parlent souvent?
Je ne sais pas. J'ai assisté à quelques moments d'expression de confrérie. Je les ai vus chanter, danser et arrivée presque à la transe, mais je n'ai pas assisté à des échanges, à des discussions qu'ils auraient pu avoir sur sur le contenu spirituel de leur pratique musicale.
Probablement aussi parce que les mots ne sont pas aisés à trouver pour dire tout ça. On entendait toujours dans la voix de Martin Saint-Pierre l'idée de graffiti sonore ou aussi d'un langage. Est-ce que vous avez l'impression d'écrire quelque chose en chantant, au-delà même des textes que vous interprétez? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou de parler quelque chose en chantant?
Ah oui, mes chants, je les parle. Parce qu'il faut que je les entende pour les interpréter et les sentir. Voilà. Et donc, je m'entends dire le texte. Et alors, évidemment, quand je suis sur scène, j'esquisse des mouvements de danse et de ce que j'en ai gardé comme souvenir de pratiques de transe dans ma cour, parce que évidemment c'était des choses qu'on faisait dans cette cour, mais aussi dans les mariages, des moments de joie, etc., où les femmes s'exprimaient, dansaient, chantaient, etc., jusqu'à la transe. Et donc ça, c'est des choses que j'ai vues quand j'ai été petite fille, et que j'esquisse dans mes concerts, parce qu'évidemment je sur une scène on ne peut pas déborder, ça ne peut pas déborder, alors que dans la réalité justement il faut déborder. Mais j'esquisse à la fois des mouvements, mais aussi sur le plan émotionnel, parce que quelquefois je suis débordée par ce que je chante, par les textes et le rapport, par exemple, de proximité du chanteur, de l'adepte à son Dieu, une proximité très très forte, que dans un moment du concert, je sens moi-même, et donc je suis emportée par ce sentiment de proximité et de don. Enfin, on est là, on se donne à ce texte, on se donne à cette mystique, et voilà, il y a une espèce de rapport très intense pendant le chant où on perd un peu presque la conscience, sauf que quand on est sur scène, il faut pas la perdre complètement, parce que il faut se recaler tout de suite, parce qu'il faut terminer un chant, en commencer un autre, et tenir le temps de scène.
Souad Asla, qui était ici à ce micro et qui a, pour ses projets justement, fait voyager les femmes de certaines cours, de certaines maisons, jusque dans la scène, a dit sa grande difficulté à opérer ce mouvement-là, y compris à titre personnel, mais aussi pour ces femmes qui devaient négocier fort et durement avec frères et maris, ou avec peut-être l'entourage et le regard. Est-ce que vous, dans le chemin qui n'est pas exactement le même, vous avez connu des difficultés pareilles ou avec cette espèce de place extérieure dont vous parliez tout à l'heure, Ouria Aishi, c'est un chemin qui a été plus simple?
Enfin, plus simple, certainement, par rapport à ces femmes avec lesquelles travaille Souad. Je connais son travail, évidemment. Je peux dire que peut-être pour moi c'était plus simple, mais ça l'a pas été complètement, parce que ni ma famille ni mon pays n'ont compris pourquoi je montais sur scène. J'ai des diplômes, j'étais enseignante, j'aurais pu faire une carrière classique, tranquille, d'enseignante. Puis un jour je leur ai dit je monte sur scène. C'était assez incompréhensible, mais c'était tellement tellement important pour moi de continuer à chanter. Alors il se trouve que j'étais en France et qu'il y avait une possibilité absolument extraordinaire de monter sur scène, et puis j'ai trouvé immédiatement et très vite des gens qui étaient prêts à m'aider, qui m'ont dit écoute, vas-y, fais-le. Et très vite, j'ai trouvé un tourneur, très vite, j'ai trouvé une maison de disques pour me faire un disque. Les choses sont allées quand même assez vite et c'était assez facile. Mais ce qui était plus difficile, pas pour moi, parce que pour moi j'ai fait tout ça tout à fait naturellement, mais mon statut dans ma famille et dans ma ville, par exemple, je viens d'une petite ville qui est devenue grande maintenant, d'une petite ville de l'Est algérien, les gens ne comprenaient pas ma démarche. Pourquoi, après avoir fait de longues études à Paris, elle monte sur scène comme... tout ça, on en a beaucoup. Hein, c'est presque ça qu'on avait dit, mais les chanteuses, on en a beaucoup. Voilà. Donc, pour moi, ça n'avait pas trop d'importance. Ce qui importait à mes yeux, c'était de chanter. Et après, si vous voulez, j'étais dans un environnement bienveillant. Vraiment, vraiment. J'étais dans un environnement bienveillant, de professionnels, d'amis aussi, parce que ça a beaucoup compté, qui m'ont dit, vas-y. Vas-y, tu peux le faire. يا رباني قلت نشوفك بعياني ننسى حالي حقق لي الرباني يا خوني يا قلت نزور الخوني يا خوني يا ربي عطوف علي يا بالك تنسى تنحي عني ذي الغصة تزول الوكسة يصبح قلبي هانية
خونية قلت نزور الخونية خونية يا ربي عطوف عليا
خونية قلت نزور الخونية خونية يا ربي عطوف عليا
خونية قلت نزور الخونية خونية يا ربي عطوف عليا
يا مولا النور برهانك حاضر صرار راني مضرور من حبك زاد عليا
Aïchi, c'est un extrait de ce disque Chant mystique d'Algérie, un extrait qui s'appelle Sidi Rached. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce chant-là?
Oui, il fait partie du répertoire des confréries soufis des Issaoua de Constantine. C'est là que je l'ai puisé, c'était dans le répertoire de ces chanteurs. Et il parle de la retraite. Khaounia, c'est plutôt la confrérie. Et ce dont ce texte parle, c'est le retrait de l'adepte pour se rapprocher de son créateur.
Et le retrait de la vie sociale, de la vie quotidienne.
Oui, de la vie quotidienne, de la vie. Oui, de la vie sociale aussi, parce que. Il y a de grands mystiques dans la civilisation musulmane qui vont jusqu'à la folie, dans leur solitude et dans leur retrait de la société. Et en fait, c'est ce cheminement ces mystiques qui en sont devenus fous sont des références en fait dans la pratique de la mystique musulmane. Et ce texte parle de cela. Il parle de comment on se met en état de recevoir et de donner à son créateur.
Et paradoxalement, ça parle de retrait, de ce chemin qu'on fait presque pour s'extraire du collectif et s'échanter par un collectif. C'est chanté, on l'entend aussi, par ou avec le claquement progressif des mains, puis le tambour, puis des voix qui se répondent, donc précisément par de l'ensemble, en fait. J'ai commencé cette émission en parlant de tous ces gens qui chantent ensemble pour manifester qui leur colère, qui leur solidarité, qui leur désir de continuer à chanter. Qu'est-ce qu'il y a comme ça de fondamental pour vous, Ouria Aishi, qui nous émeut, qui nous meut, qui fait qu'on donne de l'importance à des humains qui chantent ensemble.
Dans nos pays, le chant est essentiellement collectif. Les solistes viennent plutôt du Moyen-Orient. Évidemment, après cette culture de la soliste, je pense aux femmes particulièrement, mais c'est la même chose pour les hommes.
D'autant que vous y avez consacré un disque.
Oui, exactement. Tout à fait, tout à fait. Mais dans la tradition, les chants sont collectifs et ce sont des chants d'expression. C'est-à-dire que les groupes chantent ensemble parce qu'ils ont quelque chose à dire. Alors, ça peut être l'amour ou l'exil ou la guerre. Il y a des sujets, il y a des thèmes de chant collectif. Et c'est ça qui en tout cas moi je suis soliste parce que je n'avais pas le choix et je voulais chanter et j'étais en France il fallait y aller, j'y suis allée, donc je suis une soliste accompagnée par des musiciens. Mais par exemple, les chants mystiques, là, les chants de confrérie, celui dont vous parliez à l'instant, c'est des chants qui se chantent en groupe d'hommes. Ils sont assis en demi-lune, comme ça, avec des percussions, enfin, une série de percussions, et qui, à un moment donné, emportent à la fois les artistes et le public, les gens à un moment donné quand les percussions, parce que vous avez entendu, on commence par taper des mains, puis ensuite les percussions entrent et quand elles sont 5 ou 6 et qu'on a cette demi-lune d'hommes assis avec des percussions, on en perd la conscience.
Comment est-ce que vous regardez de près ou de loin ces femmes et ces hommes qui chantent dans les rues d'Alger tous les vendredis, mais aussi parfois le mardi, les étudiantes et les étudiants, et qui chantent eux aussi, alors qu'ils sont très loin des chants mystiques et sacrés qu'on évoque aujourd'hui avec vous, Ouria Aishi, mais qui sont musicaux pour autant. Comment les écoutez-vous?
Alors, ce sont des moments de... J'ai suivi ça de très près, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est des moments de... C'est comme si ils étaient surpris eux-mêmes par ce dont ils étaient capables, vous voyez. Ils étaient complètement émerveillés par leur puissance, par la puissance de leur mouvement. Et on le voit sur leur visage, de ces jeunes filles, ces jeunes gens qui ont pas plus de 30 ans, jusqu'au plus petit, tout petit. Et je crois que ce qu'ils exprimaient et qui nous émouvait, en tout cas, je suis très bon public, je l'avoue, mais je regardais tout ça et je pleurais. Mais vraiment, je n'arrivais pas à me retenir par leur bonheur. À cause de leur bonheur et à cause de leur beauté, et de leur de la simplicité avec laquelle ils exprimaient un mouvement d'une puissance inouïe qui les étonnait eux-mêmes.
On va revenir au mysticisme par la voix de la flûte et du poème. On écoute un peu de Neyi. Écoute le Ney raconter une histoire, il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure, loin de la source, aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni. Moi, je me suis plaint en toute compagnie. Je me suis associée à ceux qui se réjouissent comme à ceux qui pleurent. C'est Kutsi Ergüner, grand interprète turc de Neyi, qu'on entend ici, Uria Aishi et Jana Leos lit un petit peu d'une des traductions qui existent de cette quête de l'absolu de Rumi, écoute le Neyi raconter une histoire. Ici, c'est une traduction de Meyerowitz et Mortazavi. Il y a de multiples exégèses de ces textes-là, qui sont des textes anciens, qui sont des textes 3e siècle. La question de la séparation, même on pourrait dire initiale, qui serait la séparation du roseau d'avec la nature et qui produirait la musique, cette espèce de séparation aussi entre l'homme et la femme, entre l'humain et le sacré, l'humain. Il y a mille choses à dire sur ce poème-là, mais je voudrais d'abord vous entendre sur cette flûte.
Alors, moi, au début de mon travail de scène, j'ai travaillé d'abord pendant longtemps avec une autre flûte qui s'appelle Gasba, qui est aussi du roseau taillé par le musicien et qui a des sons évidemment différents du Ney, et qui est donc l'instrument avec la percussion, les instruments fondamentaux de la musique aurétienne. C'est vraiment l'orchestre aurétien par excellence. Ensuite, pour travailler sur le répertoire mystique, le Ney est indispensable parce qu'il a un son, il a il dit des choses différentes de la gasba. Il a un propos, voilà, je cherchais mon mot. Il a un propos qui est différent de la gasba et qui accompagne d'une manière vraiment très bonne ces chants de confrérie. Et vous parliez du répertoire persan ou même du Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, au Liban, etc. Les chants de confrérie sont accompagnés aussi de Ney.
On a commencé cette émission en parlant de la préparation progressive qui vous mènera jusqu'à l'auditorium tout proche du musée du Quai Branly, À Paris, Ouria Echi, vous avez parlé des textes très rapidement. Ici, on a entendu un petit extrait d'un texte de Rumi. Vous avez quoi comme rapport fondamental avec ces textes que vous chantez?
Ben, ils sont le fondement du travail, enfin de l'expression. S'il n'y avait pas ces textes, qu'est-ce que je ferais? Enfin, ma présence sur scène n'aurait aucun sens. C'est le propos, c'est le texte que j'entends. Je le chante, mais je l'entends. Et il me dit des choses, il me parle. Et il y a une espèce de va-et-vient entre le texte que j'entends avant de l'interpréter. Il passe dans ma tête, je l'entends, je l'écoute, je le comprends, et il faut que je le rende par la voix. Et c'est comme ça un rapport d'aller-retour entre ma tête, mon cerveau, ma conscience et ma voix pendant une heure et demie.
Alors je dois dire à celles et ceux qui seront là mais qui seraient peut-être pas assez proches pour voir vos grands yeux ouverts que pendant toute cette heure-là, et je ne doute pas qu'il en sera de même sur scène ce dimanche, vous avez eu ou bien les yeux très très grands ouverts ou bien complètement fermés. Merci beaucoup, Ouria Echi.
Merci à vous.
19 janvier, c'est la date de ce concert. Et puis, je renvoie évidemment à l'ensemble de votre discographie qu'on mettra sur le site internet. À la prise de son ce soir, c'était Jean-Michel Bernaud, à la réalisation. Lise-Marie Barré, Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor, Louque Vauvillier et Lucie Riandet. C'est aussi une page sur franceculture.fr. Par les temps qui courent, c'est aussi un podcast auquel vous pouvez vous abonner via l'appli Radio France. Dans un instant, 22h, le journal.
عليه السلام
اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام
دعاك يا ربي بجاه الحبيب وتنعم علينا بفتح قريب
اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام
أرواح يا جمالي أرواح نرحلوا في قبر محمد ثم ننزلوا
اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام
الله 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 الله
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 أنا شيخي في حل الرجال
الله 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 الله
أو سألتك بدون جلال
الله 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 الله
تحضر لي في ضيق الحال
الله 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 الله
نبغيك تكون معايا
الله 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 الله
الله الله الله
يلا